Éphésiens, chapitre 6, et nous allons regarder un sujet qui nous touche, je pense, à peu près tous ce matin, au sujet du rôle, des devoirs, des serviteurs et des maîtres, des employeurs, on va dire. D'accord ? Prions, s'il vous plaît. Père, ce matin, merci de placer ce texte devant nous, que ta volonté s'accomplisse, que nous puissions être sensibles à ce que tu as à nous dire. Je te prie, Père, de fortifier ton serviteur à ta gloire et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous nourrir de ta parole, tous et chacun, retenir l'essentiel et peut-être rectifier des attitudes qui te déplaisent dans nos comportements afin de te plaire et d'être dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à tourner dans votre Bible en Éphésiens chapitre 6 et verset 5 et nous allons continuer l'exposition par message de l'Épître aux Éphésiens. Il est écrit au verset 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Nous avons déjà vu dans les dimanches précédents, que l'apôtre Paul nous invite, en fait, dans la plénitude du Saint-Esprit, d'être soumis les uns envers les autres. Ça commence dans l'Église, sous vous soumettant les uns aux autres, verset 21. Ça s'applique aussi dans la vie du couple. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça s'applique aussi aux enfants, obéissez à vos parents. Et ça s'applique ici, et même aux parents, parce qu'ils doivent s'appliquer à se soumettre à la volonté de Dieu, d'élever les enfants et ne pas les irriter. Les serviteurs ici, d'obéir à leur maître, et puis finalement les maîtres à faire de même, c'est-à-dire à connaître la volonté de Dieu, à se soumettre à la volonté de Dieu pour être des bons employeurs. En fait, je vais dire de suite que c'est dans la mesure où on est rempli du Saint-Esprit, que ces choses se réalisent selon la volonté de Dieu. Donc finalement, même si on va parler du rôle des serviteurs et du rôle ou les devoirs, j'ai intitulé les devoirs des serviteurs et les devoirs des maîtres, il n'empêche pas moins que le fond de ce que Dieu nous demande ici, et en continuité de ce que nous avons déjà vu, c'est est-ce que vraiment je suis rempli du Saint-Esprit ? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit dans ma vie professionnelle ? Vous savez, on pourrait dire que, voilà, je suis chrétien du dimanche, n'est-ce pas ? Je chante des beaux cantiques, j'essaye d'être le plus joyeux possible, d'avoir la meilleure relation possible avec mes frères et sœurs, mais dans la semaine, hein, c'est une autre chose. Est-ce qu'on peut vivre la vie chrétienne à deux vitesses, la semaine et le dimanche ? Là où on travaille, et puis en famille, et puis en église, est-ce que c'est possible cela ? En fait, Dieu touche ici tous les domaines de notre vie, la vie de couple, pour ceux qui sont mariés, la vie parentale, de famille, et puis la vie professionnelle. Alors, la question que Dieu nous pose ce matin, est-ce qu'en tant qu'employé, vous êtes sûr d'être dans la volonté de Dieu ? Et en tant que patron ou employeur, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes dans la volonté de Dieu ? Est-ce que vous êtes sûr d'être rempli du Saint-Esprit là où Dieu vous a placé dans votre vie professionnelle ? Vous savez, Dieu regarde toutes choses, les petites choses comme les grandes, et rien ne lui échappe. Dans nos vies, rien ne lui échappe. Alors rapidement, on a déjà vu, n'est-ce pas, que Dieu nous demande d'être rempli du Saint-Esprit en tant qu'individu, au sein de l'Église, dans le couple, dans la relation parent-enfant, et puis dans la relation enfant-parent-parent-enfant, dans la société. On verra plus tard ce que c'est que d'être rempli de Saint-Esprit dans le combat spirituel, et puis aussi dans la prière et le témoignage. Bon, c'est un rappel, mais c'est toujours bon de situer là où on est actuellement dans le texte. Dans la soumission chez la croyante, c'est la conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. Il y a une beauté dans l'Église, c'est lorsque les frères et les sœurs, remplis du Saint-Esprit, se soumettent les uns aux autres, se respectent, s'édifient, ainsi de suite. Mais la soumission fait partie de la beauté de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un qui soumet, c'est souvent quelqu'un qui est humble, qui sait écouter et qui cherche à comprendre la volonté de Dieu dans le brisement intérieur de son cœur. Évidemment, ça s'applique dans tous les domaines de notre vie. À l'exemple de Jésus-Christ qui s'est soumis. Alors, ce matin, on va regarder ensemble un premier texte, c'est le verset 5, si on peut monter le son un petit peu, merci. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Voilà le mandat que Dieu nous a laissé en tant que chrétiens. Le texte ici se divise naturellement en deux parties, le côté des serviteurs, le côté des maîtres. En fait, si vous avez lu, peut-être on doit le relire plus attentivement ensemble, mais si vous regardez le texte ici, il y a une première expression, verset 5, où il est écrit « comme à Christ » en parlant du rôle des serviteurs. Ensuite, il est écrit un peu plus loin, au verset 6, « des serviteurs de Christ » qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur. Et puis verset 8, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur. Ici, on voit que l'apôtre Paul veut diriger les yeux de ceux qui servent, on va savoir ce que ça veut dire serviteur, vers Dieu lui-même dans le travail. Dans le travail, nos yeux ne sont pas toujours fixés dans le Seigneur. Mais il y a toute une différence de travailler les yeux fixés sur le Seigneur ou les yeux fixés sur le travail lui-même, ou la rémunération, ou même peut-être la relation avec des employeurs qui sont parfois d'un caractère difficile, et même parfois injuste. Mais l'apôtre Paul, ici, désire à ce que nous, les croyants, qui sommes employés, nous ayons les yeux fixés sur le Seigneur. Non seulement que nous ayons les yeux fixés sur le Seigneur, mais j'allais dire que nous laissons le Seigneur nous regarder, avoir ses yeux sur nous et évaluer la façon avec laquelle non seulement je me comporte vis-à-vis de mes collègues de travail, mais par rapport à mon travail. Sachant que chacun d'entre nous, par rapport à l'emploi que nous avons, nous serons jugés devant Dieu un jour par rapport au travail bien fait ou mal fait. Donc c'est même une question de conscience ici. Ici, dans le verset 5, il y a le résumé, quelque part, de ce que Dieu attend concernant les serviteurs, on va dire les employés. Premièrement, la Bible dit ici, obéissez à vos maîtres. Donc c'est l'obéissance. Dieu attend à ce que son serviteur, qui est un enfant de Dieu, se soumette à ses employeurs, à ses supérieurs. Donc c'est l'obéissance. La deuxième chose, ça concerne la bonne attitude, selon la chair, avec crainte et tremblement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est synonyme de respect. L'employé doit respecter les employeurs, non seulement dans le comportement intérieur, mais aussi dans la façon de travail pour laquelle il est rémunéré. On va le regarder un peu plus loin. Avec simplicité de cœur, ça c'est synonyme de sincérité, de générosité, et non pas de dissimulation, d'hypocrisie. Et déjà, donc, dans le premier verset, on a exactement ce que Dieu désire concernant l'attitude du serviteur. Et en fait, la bonne motivation, et j'ai ajouté perspective, parce qu'on voit dans les versets suivants la perspective de la récompense du travail bien fait, comme à Christ. En fait, Dieu veut que l'employé obéisse à ses employeurs en même temps qu'il est en train d'oublier de se soumettre à son Seigneur. Se soumettre à ses employeurs, c'est se soumettre au Seigneur. Se soumettre au Seigneur, c'est se soumettre à ses employeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire serviteur? Et j'aimerais juste rapidement donner un contexte ici à propos du serviteur. Le mot grec au singulier doulos a donné le mot français douleur. C'est vrai qu'il y a des travails, des emplois plutôt, qui sont parfois douloureux et difficiles, mais ce n'est pas vraiment l'application du mot ici. C'est tout simplement que dans le contexte d'alors, doulos était traduit, et devrait être traduit d'ailleurs par esclave. Paul disait souvent « je suis serviteur », mais littéralement on pourrait dire « je suis esclave de Jésus-Christ ». Et dans la société grecque et romaine, il y avait de nombreux esclaves qui malheureusement étaient souvent maltraités par leurs maîtres, qui étaient évalués ou tout simplement considérés comme des animaux ou comme des choses matérielles. Donc les employeurs, les maîtres à cette époque-là, avaient le pouvoir de vie ou de mort sur leurs esclaves. En fait, c'était leur propriété. L'esclave ne s'appartenait plus à lui-même, il était la propriété d'un autre, donc il perdait totalement, en fait, sa liberté et devait avoir une obéissance en toute chose envers son maître. Alors heureusement que, même si, et je fais une petite parenthèse rapide, parce qu'on ne va pas faire le procès, n'est-ce pas, du travail ou de l'esclavage ici, mais l'idée c'est que certainement c'est le christianisme qui progressivement a changé et transformé la société pour qu'il n'y ait plus d'esclaves. Et il y a des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Je pense à John Wesley notamment et Whitefield, qui se sont levés contre l'esclavage, qui malheureusement parfois, n'est-ce pas, a ressurgi. Mais l'esclavage n'est pas dans le plan de Dieu, même si autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau, il n'est pas aboli. Quelque part, c'était une relation de travail, de maître et malheureusement d'esclave parfois, mais certainement que dans l'Ancien Testament, il y avait toute une relation le mot chrétien serait trop, mais en tout cas sous la loi de Dieu qui préservait les esclaves, notamment des coups, de la violence de leur maître, etc. Mais les esclaves ont souvent été maltraités, malheureusement, dénigrés par les employeurs. Et du temps des Grecs et des Romains, c'était exactement ce qui se passait. Il y avait parfois quelques esclaves qui aimaient tellement leur maître, qui même une fois affranchis, désiraient rester asservis à leur maître. Ils se faisaient alors poinçonner à l'oreille, à l'aube de l'oreille, comme ça, une marque ou avec un signe d'appartenance définitive et à jamais envers leur maître. Mais souvent, malheureusement, dans la société, les sociétés grecques et romaines, les serviteurs étaient des gens qui étaient assujettis à un véritable esclavage. Il n'empêche pas moins, et je m'empresse de le dire ici, c'est que Paul ici n'est pas en train de vouloir abolir l'esclavage. Certainement, il y avait beaucoup d'esclaves qui, une fois convertis, jouissaient d'une telle liberté qu'ils se disaient « Mais pourquoi est-ce que je suis esclave d'un maître ? Si Christ m'a affranchi, pourquoi je suis toujours esclave d'un maître humain ?» qui parfois est même injuste ou d'un caractère difficile, nous disait l'apôtre Pierre, et pourtant il recommande toujours l'obéissance. C'est parce que au moment du réveil spirituel de l'Église primitive, si les esclaves s'étaient révoltés, ça aurait entaché l'élan du christianisme. Il n'empêche pas moins que dans le plan de Dieu, c'était l'abolition de l'esclavage. Enfin, c'est une petite parenthèse, je pense que c'était bon de le dire ici. En fait, ce texte s'applique à tous ceux qui sont employés, et on verra plus tard tous ceux qui sont employeurs. Quelle est notre attitude en tant qu'employés? Bien, la Bible dit ici, obéissez à vos maîtres, obéissez à vos employeurs. Paul le répète ici, obéissez à vos employeurs. Et l'impératif ne laisse aucune équivoque, dans le sens que c'est une attitude permanente, continuelle, une volonté d'être soumis de façon permanente. Je veux dire, mais je ne peux pas toujours me soumettre à mon patron. Et c'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels, comme Pierre, n'est-ce pas, qui n'a pas voulu se soumettre au Sanhédrin, qui voulait l'empêcher de prêcher l'Évangile. Il a dit, il vaut mieux plaire aux hommes, ou à Dieu qu'à aux hommes. Et dans un sens, c'est vrai. Vous n'avez jamais entendu, ou dans les films, combien c'est souvent le cas, un patron qui dit à sa secrétaire, dites que je ne suis pas là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de demander à sa secrétaire? De mentir, n'est-ce pas? On n'est pas obligé de mentir en tant qu'employé. Ça, c'est une exception. On n'est pas obligé de voler. On n'est pas obligé de faire la fraude en tant qu'employé. Même on doit dénoncer peut-être la fraude, n'est-ce pas, de son employeur, si ça devait être le cas. Mais Dieu nous appelle à être honnête, il nous appelle à obéir. Je me souviens à Québec, pendant un certain temps, j'ai travaillé chez un entrepreneur qui avait vendu un terrain à quelqu'un, il s'était trompé du numéro de l'eau. Et je lui ai dit, mais c'est faux. Mais non, t'as qu'à dire que c'est... J'ai dit, non, je mens pas. Et il était tout surpris de ma réaction. Tant pis, je risquais peut-être d'être désagréable envers mon patron. Je dis non, je ne mens pas, je regrette, je ne vais pas mentir. Je vais le dire au client qu'on s'est trompé. Et finalement, ça a été dit comme ça et ça s'est très bien passé. Mais voyez-vous, le mensonge qui est demandé par un employeur n'est pas une bonne chose pour l'employé de s'y soumettre. Et il ne faut pas que l'employé aussi, évidemment, commence à mentir à son patron pour des intérêts personnels. Mais la Bible dit ici qu'on doit se soumettre à son maître. Ce qui est intéressant, n'est-ce pas, c'est que dans l'original, le mot « maître » vient du mot grec « kurios », qui signifie « Seigneur », qui est largement traduit dans notre Nouveau Testament par « Seigneur », « le Seigneur » et même parfois par « Dieu ». Ça signifie « maître », ça signifie « patron », ça signifie même « monsieur ». Mais l'idée ici, c'est que ça vient d'un mot, un adjectif, « kuros », qui signifie « suprême en autorité ». Donc l'idée ici, c'est que c'est Dieu qui a établi des gens qui sont employés, des gens qui sont employeurs. Et l'employeur a une autorité qui est déléguée par Dieu. Espérons qu'il est le plus juste possible, n'est-ce pas? On va en parler plus loin. Mais l'idée ici, c'est que Dieu nous demande, en tant qu'employé, serviteur, obéissez à vos maîtres selon la chair. Les maîtres selon la chair. Pourquoi l'apôtre Paul dit le mot « chair » c'est un mot quand même assez, j'allais dire, cru, façon de parler, assez dur à entendre. Parce que le mot « chair » dans... Le grec signifie la viande, littéralement. Jésus a dit, si vous ne mangez de ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez hériter la vie. Alors le mot chair, c'est les juifs ont pensé, mais il veut qu'on mange sa viande. C'était pour un juif le plus grand des blasphèmes d'aller devoir manger, se rendre cannibale la chair d'un être humain. C'était horrible, n'est-ce pas? Alors c'est ça que ça veut dire la chair, mais ça veut dire aussi le corps. Ça veut dire aussi tout simplement l'apparence humaine ou la nature humaine. Avec ses faiblesses, n'est-ce pas? Donc ses faiblesses physiques ou morales, tout simplement un être humain. Moi, je pense que l'apôtre Paul, ici, il a un peu de, il a un peu d'humour, il dit selon la chair, ça veut dire, ben, ce sont des maîtres temporels ou temporaires. Ce sont des maîtres qui sont selon la chair humaine. Mais votre vrai maître à qui vous devez regarder, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous obéissez à ces maîtres selon la chair qui sont juste sur la terre un certain temps, qui ont certainement une autorité déléguée par Dieu, mais sachez que votre vrai maître, c'est Jésus-Christ. Mais vous devez apprendre à vous soumettre à vos maîtres, même s'ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils sont de nature humaine. Non seulement ils sont temporaires comme maîtres, mais en plus, ils ont des défauts. Qui n'a pas de défauts? Et un employeur a aussi ses défauts. C'est pour ça que Pierre disait, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Ça vous est jamais arrivé de devoir vous soumettre à quelqu'un avec quelque déplaisir parce que la personne n'est pas particulièrement aimable envers vous. Mais de continuer à l'aimer malgré tout, de persévérer à pardonner, à aimer parce que vous voulez que la victoire par l'amour s'installe dans votre relation avec l'employeur. Mais c'est pas toujours facile de se soumettre à quelqu'un qui est injuste ou qui a un mauvais caractère ou qui vous maltraite ou qui fait du favoritisme ou qui traite quelqu'un d'autre avec plus d'égard que vous, alors que vous faites le même travail, ainsi de suite. Il y a parfois du favoritisme chez les employeurs. Donc la Bible dit ici, selon la chair, et Paul ajoute avec crainte et tremblement. Et j'aimerais vous lire un passage qu'on trouve en 1 Timothée 6, versets 1 et 2. Il dit « Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. » Le comportement de l'employé témoigne, en tant qu'enfant de Dieu, de sa foi. Et une façon de montrer une bonne attitude envers ses employeurs, c'est de les respecter, d'avoir une crainte et tremblement. Une crainte, c'est pas la peur, mais c'est un respect profond envers l'autorité. Je me souviens quand j'étais militaire et j'étais, excusez-moi, je vais vous le dire, assez anti-militariste. Et j'avais boycotté l'examen pour être officier. Je voulais absolument démontrer que j'étais anti-militariste. Et un jour, je me suis retrouvé dans le bureau du plus haut gradé, en fait, à la caserne. Et je travaillais pour lui. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui est venu, un lieutenant. Et j'ai regardé dans son attitude, j'ai observé un tel respect pour le grade supérieur. Alors que moi, je n'étais pas toujours... Bon, pour différentes raisons, mon père a été prisonnier de guerre et... Il est devenu vraiment antimilitariste et il nous a inculqué ça, je pense, un petit peu, entre autres. Mais je me suis dit, là, il y a une attitude que moi, je devrais avoir d'abord envers le Seigneur. Être prompt à obéir, être prompt à respecter, à écouter et à me soumettre. Et je pense, dans l'Ancien Testament, vous savez, on peut beaucoup illustrer les vérités ou les principes spirituels du Nouveau Testament avec l'Ancien Testament. On a parfois regardé ensemble la vie de Néhémie. Et Néhémie était un échanson du roi qui tout simplement devait s'occuper du roi et qui a voulu aller reconstruire les murailles, n'est-ce pas, de Jérusalem. Et l'attitude de Néhémie envers Artaxerxès, en Néhémie 2, verset 1 à 8, a favorisé cela. S'il n'avait pas été un bon serviteur, Artaxerxès n'aurait pas été favorable envers lui. Alors il y a une attitude chez l'employé qui peut favoriser non seulement la relation avec l'employeur, mais aussi des projets qui peuvent être à sa faveur. Pourquoi pas une augmentation de salaire, j'allais dire, en passant. Et puis la Bible dit aussi, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur. Alors simplicité, c'est le mot grec a donné sincérité, sans dissimulation, générosité. Est-ce que ça vous arrive de traîner les pattes en tant qu'employé ? Eh bien, un bon employé, il ne traîne pas les pattes. Il s'empresse de travailler fort, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de son cœur. Et en fait, ça veut dire que dans la simplicité du cœur, il est droit envers ce qu'il fait. Il n'a pas un double visage, il n'a pas une double pensée, il n'a pas une double, un comportement. Il n'est pas hypocrite, il n'est pas superficiel, il est véritable et complet. En fait, c'est son cœur qui s'exprime de façon droite et honnête. La simplicité de cœur est une qualité, n'est-ce pas, qui fait qu'au travail, par exemple, il ne critique pas les autres, il sert le Seigneur de tout son cœur, et il est heureux de le faire, il a de bonnes pensées envers son employeur. On va regarder ça un petit peu plus loin après. Il est dit comme à Christ. Alors le souci principal de l'employé, c'est de plaire au Seigneur dans son comportement vers l'employeur. Il peut rouspéter comme les autres, il peut maugrer, il peut bouder. Vous savez que ceux qui bougent, je les appelle les bouddhistes. Il peut faire toutes sortes de choses vis-à-vis de ses employeurs et vis-à-vis de ses collègues. Mais cette attitude ne favorise pas la joie dans son travail. Il peut être très malheureux dans son travail, il peut même se soumettre par contrainte, mais pas dans la joie. Mais s'il est enfant de Dieu, il devrait se soumettre comme à Jésus-Christ. Ses yeux restent fixés sur le Seigneur. Et en fait, lorsque il sert un employeur, il sert Christ lui-même. Et donc, dans son attitude d'humiliation, certes, et de soumission, il voit Christ. Il voit, au travers de son employeur, une occasion de glorifier Jésus-Christ. Et donc, il devient un employé digne de confiance. Il est productif, il est coopératif, il sert, soumis au Saint-Esprit, comme pour Christ, afin que Christ reste la source, le but de son obéissance, et que ce soit réel dans son cœur, parce que l'amour de Christ le presse à faire tout pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Christ. J'ai marqué ici « bien servir son employeur, c'est aussi bien servir Christ ». Et en Colossiens chapitre 3, versets 23-24, Paul dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres ». Vous savez, une fois on a vu « Femmes, soyez soumises en toutes choses à vos maris ». En toutes choses. Et là, c'est « Serviteurs en toutes choses », même lorsque ça nous déplaît. Quand un employeur, je me souviens quand je travaillais chez un architecte, alors on me demandait de faire des choses, des fois j'avais pas envie, j'avais envie de faire un plan différent, n'est-ce pas? Mais quand j'étais architecte et soumis à un autre architecte qui était mon employeur, j'étais obligé d'accepter de faire le plan qu'il voulait. Je pouvais suggérer de temps en temps ma propre perspective des choses, mais s'il voulait ça, j'étais employé, j'étais obligé de me soumettre à mon employeur et de faire exactement ce qu'il voulait. C'est ça la vie d'employé, c'est d'accepter de se soumettre, même si parfois on a envie de faire autrement. Et ce que j'aime beaucoup dans l'expression « comme à Christ », c'est qu'on peut aimer son travail et le dédier au Seigneur en toute chose et dire « Seigneur, je travaille pour toi ». C'est toute une différence d'approche dans le travail. « Je travaille pour toi ». Je me souviens, alors que Louis et moi, on était partis du Québec pour un séjour en France avec tous nos enfants, on a laissé notre maison entre les mains d'un jeune couple de l'église où j'étais le pasteur à Québec. Et quand on est rentré 3 semaines plus tard, on a trouvé la maison plus qu'impeccable. On l'avait quand même laissée bien, mais on a retrouvé la maison dans un état extraordinaire. Et les gens, ils s'appelaient Daniel et Dorian, ils nous ont accueillis à l'arrivée, tout ça, avec tellement d'amour, ils avaient même préparé un repas. On était bouleversés de tant d'amour, et dans leur simplicité de cœur, ils ont dit, vous savez, on leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez bien pris soin de la maison? Ils ont dit, oui, mais vous savez, on a pris soin de la maison comme si c'était la maison du Seigneur. Mais ils l'ont dit avec un tel amour, un élan de cœur, qu'on a vu vraiment qu'ils avaient pris soin de leur petit emploi, entre guillemets, comme s'ils le faisaient pour le Seigneur. Ils le faisaient par amour pour nous, c'était très bien d'ailleurs, mais ils le faisaient par amour pour le Seigneur, comme à Christ, comme si c'était la maison du Seigneur. Ça me fait penser que dans l'Église, on n'est pas employé pour être énuméré, mais on a un travail bénévole, un service, un ministère. Est-ce qu'on le fait toujours pour Christ, comme à Christ ? Est-ce que c'est Christ qu'on sert réellement, sincèrement, dans l'Église ? Si vous n'êtes pas employé, vous pourriez demander pourquoi vous êtes au chômage au Seigneur ? Parce que Christ veut vous employer dans l'Église. Et deuxièmement, avez-vous la bonne attitude de servir le Seigneur dans l'Église, comme à Christ ? Nous devons apprendre à servir le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul continue ici au verset 6. Il développe sa pensée qu'il a déjà résumée, je pense, au verset 5. Non pas seulement sous leurs yeux à propos des employeurs, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alfred Kuhn, dans la parole vivante, dit « Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent comme pour plaire à des hommes. » On dit que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand l'employeur n'est pas là, on relaxe au travail. On diminue l'accélérateur, on passe de 100% à 80, 70, puis les plus paresseux, peut-être carrément, moi je me souviens, enfin je me souviens un jour, je faisais une étude, j'ai dû aller dans un département d'urbanisme, dans une certaine ville, grande ville, et je trouvais les fonctionnaires très courageux à lire la dépêche longtemps le matin. Et quand je suis arrivé dans les bureaux, ils étaient tous en train de lire la dépêche. Alors, je ne savais pas si c'était pour s'informer ou si c'était une façon de démarrer le travail. Et je me suis dit, mais s'il y avait vraiment un patron là, à côté, est-ce qu'il ferait cela ? On a un comportement un jour qui sera jugé par Dieu. Est-ce que nous sommes zélés en train de travailler, non pas pour plaire aux hommes, aux employeurs, mais pour plaire au Seigneur ? Et lorsque le patron n'est pas là, est-ce qu'on a le même rythme de travail ? Bon, on peut souffler un petit peu, peut-être, mais est-ce qu'on a la même conscience au travail ? Où on crée un esprit de, j'allais dire, un peu de laisser aller, etc. La Bible dit, il y a du zèle et non de la paresse. Vous savez, il y a des employés qui deviennent paresseux, qui veulent en faire le moins possible. Ils ont l'art de savoir comment faire le moins possible au travail, tout en faisant croire qu'ils sont très agités et très travailleurs. C'est subtil cela, mais savez-vous quoi, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça, parce que ça c'est un mensonge, c'est voler son patron. Je me souviens d'un cher frère qui est décédé, je vous en ai parlé, Rénal Leclerc, avec qui on a travaillé plus de 12 ans dans l'église locale à Québec. Rénal Leclerc, ouvrier d'une multinationale, il revenait, bon, il se levait très bonheur le matin, mais il travaillait dans une multinationale pâte à papier à Québec. D'ailleurs l'odeur se sentait pas mal dans la ville, mais ceci dit, il partait à la fin de son travail. Et il me disait, M. Viguier, il m'appelait comme ça, il me disait, moi, je ne pars pas une demi-heure à l'avance. La plupart de mes collègues s'en vont. Ils profitent, quand le contremaître est parti, de partir plus tôt. Et moi, je reste. Même si, apparemment, je ne peux pas faire bien des choses tout seul, mais je pointe à l'heure où je dois partir. Je ne triche pas avec l'horaire. Il y a combien d'employés qui ont triché vis-à-vis de l'horaire, qui ont dit « je travaille 5 heures », qui ont travaillé 2 heures, ou 3 heures, ou 4 heures. C'est un vol. Et un enfant de Dieu ne peut pas voler son patron. S'il est payé pour un certain travail, alors certains sont payés à l'heure, d'autres sont travaillés à la mission, peu importe. Mais nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, des gens qui doivent être un témoin. C'est pour ça que Paul ajoute, comme pour plaire aux hommes, on ne travaille pas pour plaire à des hommes, on travaille pour plaire à Dieu. Donc ma conscience dans le travail, ma conscience professionnelle, elle n'est pas liée aux hommes, même à l'employeur quelque part, pour plaire aux hommes. Elle est liée à ce que Dieu me demande de faire dans un travail bien fait, bien accompli, parce qu'un jour je devrais en rendre compte, c'est ce que dit la Bible. En fait, la Bible dit, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Pourquoi ? Parce que si un employeur sait que vous êtes chrétien et vous n'avez pas une bonne attitude au travail, qu'est-ce qu'il va penser? C'est ça l'évangile? Arriver en retard, être paresseux au travail, enfin je fais une liste n'importe, vous comprenez ce que je veux dire? Ne pas être honnête, critiquer l'employeur dans le dos, critiquer ses collègues de travail, c'est ça être un enfant de Dieu au travail? C'est ça être la lumière du monde et le sel de la terre? Alors où est l'évangile là? Donc l'apôtre Paul a un souci, d'autant plus que ces esclaves là du temps de l'église primitive où ça a été écrit, étaient dans des conditions extrêmement difficiles. Et malgré tout, Paul leur demande, obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres. Parce que le témoignage est en jeu. Et le témoignage est important. Et nous devons veiller à ce que l'endroit où nous travaillons soit comme notre champ missionnaire. Vous savez, il y a des églises qui mettent en haut de leur... sur le linteau de la porte à la sortie, vous entrez dans le champ missionnaire. Alors moi, ça me fait sourire parce que des fois, on devrait même le mettre à l'entrée des églises. Parce que des fois, même dans les églises, des gens qui fréquentent les églises, ils ont besoin du Seigneur. Et même dans l'église, c'est un champ missionnaire. C'est une petite anecdote, mais le champ missionnaire, c'est là où on, travaille. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Allez, 35 heures minimum, je suppose, au moins. Pour ceux qui sont à plein temps, peut-être 40, 50, 60 heures, ça dépend parfois de l'emploi que vous avez. Hein. Eh bien, c'est votre champ missionnaire. Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas un plan au travers de toutes ces heures que vous passez au travail pour glorifier son nom? Croyez-vous que vous allez passer 8 heures par jour? 8 heures par jour sans que Dieu veut vous utiliser à votre travail? Bien sûr, vous avez hâte de rentrer chez vous, vous avez hâte d'aller à l'église, gloire à Dieu, vous avez hâte de voir les frères et sœurs. Mais dans votre travail, c'est une place unique où Dieu vous a placé. C'est là où il vous demande d'être le sel, la terre, la lumière du monde. Comment est-ce que vous allez témoigner vraiment de Jésus? Dans la façon avec laquelle, notamment, vous travaillez. Un travail bien fait, consciencieux, des dossiers à mener jusqu'au bout, ne pas se relâcher dans son travail. Être prêt, être prompt à se soumettre, avoir une bonne attitude envers les collègues de travail, un bon esprit. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a rien de laissé au hasard. Vous savez, quand on étudie la parole, on est quand même fasciné par la simplicité des mots, la profondeur du message que le Seigneur veut nous passer. Il est écrit qu'ils font de bon cœur la volonté de Dieu. Mais quand j'ai regardé un petit peu dans l'original, bon cœur, en fait, c'est un seul mot dans le grec. Et ça veut dire esprit. Autrement dit, qui font de bon cœur la volonté de Dieu, qui ont un bon esprit en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut donner un bon esprit à son travail. Quel est l'employeur qui ne désire pas que son employé ait bon esprit au travail? On peut avoir un bon esprit par rapport à son patron, on peut avoir un bon esprit par rapport à son attitude face au travail, même quand des fois le travail est pressant et stressant, etc. On peut avoir un bon esprit par rapport à ses collègues. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous reflétons? Est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est justement agir de bon cœur? Oui, c'est d'avoir un bon esprit au travail. C'est merveilleux cela. D'ailleurs, dans l'Église, il y a un bon esprit, frères et sœurs. C'est merveilleux lorsqu'on a un bon esprit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, dit la Bible, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est incroyable comment la parole de Dieu est profonde dans la simplicité de son langage. C'est vrai que quel est l'employeur qui n'a pas envie d'avoir un employé qui est un bon esprit? Un bon esprit. Et pour le chrétien, le bon esprit, c'est de travailler comme étant en train de faire la volonté de Dieu. Alors si vous avez un travail où vous n'êtes pas sûr que c'est la volonté de Dieu, changez de travail. Mais soyez sûr que là où Dieu vous a placé, Dieu veut accomplir au travers de vous une œuvre, parce que toutes les heures que vous passez au travail, ce n'est pas un hasard que Dieu permet que vous passiez durant votre vie. Et la Bible dit, en plus, servez-les avec empressement. Empressement, ici, on pourrait traduire par gentillesse, bonne volonté, bienveillance. C'est l'attitude de l'employé qui n'a besoin ni d'être poussé, ni d'être forcé. C'est grave quand l'employeur, tous les matins, est obligé de pousser... une personne en train pour travailler. Moi, je me souviens, j'ai eu une expérience en tant que pasteur, vous ne connaissez pas la personne, je peux le dire, qui faisait au Canada, je m'empresse de le dire, un travail bénévole pour l'église, de secrétariat, mais je passais plus de temps à l'encourager à travailler, alors qu'elle était bénévole, et à l'aider à régler ses problèmes, que le temps qu'elle passait vraiment à travailler. Alors un jour, je dis, écoutez, je ne pense pas que c'est la tâche que Dieu a pour vous. C'était difficile de dire, mais quand vous êtes avec quelqu'un comme ça qui finalement ne travaille pas, ou qui fait semblant ou qui a d'autres motivations, ben, c'est pas sa place. Parce qu'on doit travailler avec empressement, avec bonne volonté. Le ministère dans l'Église, c'est la même chose. On doit le faire de bonne volonté. On doit le faire de plein gré parce qu'on a la joie de servir le Seigneur, comme servant le Seigneur et non des hommes. Darby traduit « servant joyeusement comme asservi au Seigneur et non pas aux hommes ». Voilà la perspective de l'esclave du temps de Paul. Je suis asservi à mon maître, je suis un esclave et j'ai une situation sociale qui est déplaisante. Mais à Corinthe, par exemple, sachez que 50% de la population était des esclaves. Étaient des esclaves, mais ils étaient vendus comme du bien matériel sur le marché des esclaves. C'était terrible, n'est-ce pas ? Avaient droit de vie et de mort, encore une fois, de la part de leur maître. Mais je ne suis plus asservi à mon maître. Je suis dégagé de cet avertissement. Je suis asservi à Christ. C'est ça la bonne perspective. C'est Jésus qui est mon maître. Je suis esclave de Jésus. Et même dans mon travail, dans des conditions difficiles, comme ces esclaves vivaient, c'est à Jésus que je suis asservi. Ma perspective n'est pas que je suis asservi à un maître, à un employeur. Je suis asservi à Jésus. Voyez-vous, c'est quand même fort, parce que le mot serviteur ici, c'est esclave, et le mot seigneur, maître, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelque part un jeu de mots, n'est-ce pas, là, en tout cas dans le grec, au niveau de seigneur, il y a un jeu de mots. Le maître, par excellence, c'est Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, Colossiens 3, 24, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Moi, j'aimerais vous poser une question. Croyez-vous que ce serait normal qu'un chrétien qui, soi-disant, travaille 8 heures par jour ait mal travaillé, et qu'il ait la même récompense qu'un chrétien qui a travaillé 8 heures par jour sérieusement ? Il y aura une justice un jour, même pour le travail que nous aurons fait. Nous serons tous jugés par rapport à la qualité, à la façon avec laquelle nous allons travailler. Dieu ne nous demande pas de nous brûler, ou de, je vais dire ça, parce que c'est toujours le danger de faire tellement bien, on veut faire tellement bien qu'on fait de l'overtime, excusez le mot anglais, et que finalement on peut se brûler, faire du burn-out, ou peut-être question de méthode de travail. Enfin, ceci dit, on a en tout cas un cas dans lequel on doit rendre compte devant son employeur. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Et j'ai oublié de vous passer tout le PowerPoint, excusez. Hein. Voilà. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Là, maintenant, c'est le nivellement. Tu es patron, tu es général de l'armée, tu es un simple soldat, tu rentres dans l'église, le général, il laisse ses galons au porte-manteau. Égalité totale. Dans l'armée du Seigneur, c'est pareil. Dans les perspectives de Dieu, sachez qu'il n'y a pas de favori. Tout être humain est égal. Hommes et femmes sont égaux. La femme doit se soumettre, mais ils sont parfaitement égaux devant Dieu. Un serviteur et un maître, ils sont à la même égalité aux yeux de Dieu. Ce n'est pas qu'un a mieux réussi que l'autre. Peut-être que Dieu permet que quelqu'un réussisse, soit riche. J'espère qu'honnêtement, il a la capacité d'être leader, d'avoir cette autorité, d'employer des gens. Mais devant Dieu, ils sont au même pied d'égalité, exactement au même pied d'égalité. Et la récompense que Dieu donnera, autant pour l'employeur qui aura fait son job correctement, chrétien, que l'employé chrétien, la récompense sera sur la même base du respect mutuel entre l'employé et l'employeur, et l'employeur et l'employé. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Quels sont les devoirs des maîtres? Je vais raccourcir un petit peu parce que le temps passe vite et on va commencer un petit peu plus tard aussi, j'ai remarqué. Les devoirs des maîtres, quels sont les devoirs des maîtres? Et maîtres, agissez de même. Ça veut dire que quand Paul dit de même, retenez les principes qui sont déjà mentionnés pour les employés, parce que ça s'applique aussi aux employeurs. Les employeurs ne sont pas exclus, n'est-ce pas ? Ils ne doivent pas tomber dans un autoritarisme ou une liberté de vivre selon la chair. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre dans les cieux, que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Autant l'employé doit regarder à Jésus-Christ pour servir son employeur, autant l'employeur regarder à Jésus-Christ pour avoir une bonne relation avec son employé. Ici, le mot maître est un mot assez fort, mais faire la volonté de Dieu, c'est exactement pour l'employeur prendre les mêmes principes qui sont mentionnés déjà pour l'employé. La tâche la plus importante, je vais aller rapidement, la tâche la plus importante d'un employeur, tout comme celle d'un employé, est de faire la volonté de Dieu et de manifester la ressemblance à Christ dans tout ce qu'il a fait. Alors, j'ai noté certains points. Pourriez-vous prendre un petit peu le temps de noter cela? Peut-être vous serez employeur un jour, peut-être vous allez mieux comprendre votre employeur. Évidemment, ici, c'est l'accent mis sur ce que devrait être une relation chrétienne entre employé et employeur. Donc ça nous concerne, n'est-ce pas, si nous sommes enfants de Dieu. Il doit prendre, j'ai marqué, ses décisions d'affaires notamment, avant tout selon les normes de justice, de vérité, d'honnêteté du Seigneur, cherchant ainsi à manifester la nature de la volonté de son Père céleste dans tout ce qu'il fait. Il traite ses employés en pensant à leur bien-être et à leurs intérêts. En plus de ceux de ses affaires, il les traite avec justice parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il les traite avec respect parce qu'en le faisant, il honore et respecte le Seigneur. Et là, je vais vous donner un témoignage que moi j'ai observé chez un ami que j'ai eu la joie d'amener au Seigneur, qui était un industriel du textile qui avait une très grosse industrie à Rocourcourbe dans le Tarn. Il s'appelait Pierre de prénom. Et cet ami, qui est devenu un frère dans le Seigneur, il avait une usine héritée de ses parents, très importante, avec plusieurs centaines d'ouvriers. Et vous savez, il y a eu une grosse crise dans le textile. Et là, il avait le choix de déplacer toute son industrie dans différents pays pour essayer de garder le cap. C'était pas facile. Mais il a décidé, tenez-vous bien, jusqu'au bout, il a toujours réinvesti les profits de l'entreprise dans l'entreprise. Alors que d'autres, n'est-ce pas, et notamment dans sa parenté, avaient investi beaucoup dans les biens personnels. Mais il a tout réinvesti. Il voulait vraiment garder l'emploi de ses ouvriers, parce que c'était un petit village, il faisait vivre des centaines de familles comme ça. Et jusqu'au bout, il a résisté. À un moment donné, il a ouvert une usine en Roumanie, parce que bon, la mondialisation. Mais jusqu'au bout, il a sacrifié son usine parce qu'il voulait garder l'emploi de ses employés. Ça m'a frappé, cela. Finalement, ça fait faillite. Mais jusqu'au bout, pour préserver ses familles, pour ne pas vraiment amener la faillite dans tout un village et des centaines de familles, et jusqu'au bout, il a fait des réunions avec les ouvriers, ils ont été d'accord d'être diminués leur salaire, c'est une histoire invraisemblable. Bon, malheureusement, ça fait faillite. Mais pendant des années, il a résisté pour garder l'emploi de ses salariés. Il n'a pas cherché ses propres intérêts, son enrichissement personnel, mais il a cherché l'intérêt des autres. Et je trouve ça remarquable pour un patron chrétien. Abstenez-vous de menaces, sachant que le maître est le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'exception de personne. Tout simplement, Dieu ne fait pas d'exception de personne. Ça veut dire qu'il ne fait pas de différence entre les gens, entre les petits et les gros, c'est bon ça, hein, entre les races, etc. On est tous sur le même pied d'égalité. Et ce n'est pas ce que notre société, malheureusement, préconise souvent. Il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de favoritisme, et malheureusement, alors que Dieu voit chaque être humain exactement avec le même amour. Les yeux d'amour de Christ voient chaque être humain de la même façon. Et chaque employeur devrait veiller à cela afin de ne pas faire exception de personne. Alors, je vous donne, vous allez vous régaler un petit peu, les devoirs des maîtres. Peut-être vous allez voir, si vous voulez, je vous donne ma feuille, allez voir votre employeur. Voilà ce que mon pasteur a dit dimanche dernier, d'accord ? Celui-ci doit traiter ceux qui sont sous ses ordres de la même façon qu'il espère être traité par Christ. Bon, s'il est chrétien, là, hein. Son maître céleste, c'est-à-dire avec bonté et respect. Deuxièmement, il doit utiliser son autorité et son pouvoir avec sagesse, sans faire de pression, ni sans écraser ceux qu'il dirige. Troisièmement, il ne doit pas être brutal ni inconsidéré. Donc, pas de chantage, d'autant plus physique, mais malheureusement, dans certaines sociétés, il y a des patrons qui deviennent violents, encore aujourd'hui, mais pas de chantage ni physique ni moral. Il comprend que bien que son autorité lui vienne de Dieu, que son autorité est strictement fonctionnelle et temporaire, parce qu'un jour, il devra rendre compte à Dieu. Bon, c'est vrai, ça s'adresse encore à des chrétiens. Il doit donner à son employé un juste salaire et pas l'exploiter. Lui confier un travail adapté à ses compétences avec des conditions de travail correctes. Vous allez dire, mais ça c'est idéal. Oui, mais un bon employeur connaît son employé puis il aime son employé. C'est comme un bon professeur. Je fais une petite parenthèse, si vous me permettez. Je me souviens un jour, notre fils, c'était David. Nous, on était contre la grève. On n'a jamais voulu que nos enfants fassent la grève à l'école, par principe, pour différentes raisons. Et donc, on envoyait toujours nos enfants à l'école, malgré qu'il y ait grève. Parce que tous les profs ne font pas grève. On vous fait croire que parce qu'il y a un prof qui fait grève, alors l'école est arrêtée. Moi, je trouve ça scandaleux. Bon, je suis contre la grève dans certains domaines qui, notamment, sont au détriment des élèves à l'école. Je dis ça comme ça, d'accord ? Je fais pas de politique, là, on se comprend. Je dis que parfois, c'est au détriment des élèves. Et donc, tout d'un coup, je revois un prof. Elle dit, ah, vous savez, c'est intéressant, j'ai découvert votre fils pendant le temps, là où il y avait les grèves, on passait des temps. Il est très intéressant, votre fils, c'est intelligent. Et je me suis dit, mais il est temps qu'elle le découvre, qu'il est intéressant, notre fils, quand même. Non, mais aucune relation professeur-élève, c'est ça que je veux dire. Aucune relation professeur-élève. Mais dans l'emploi, parfois, les gens se plaignent des fois. C'est vrai, on entend des ouvriers dire, on est des numéros, mais c'est terrible cela. C'est terrible. Un professeur doit aimer ses élèves. C'est le sens de la pédagogie. Les parents d'autant plus, n'est-ce pas ? Mais les employeurs devraient aimer leurs employés. C'est un prérequis d'une direction juste et équitable, n'est-ce pas ? Alors, il s'abstiendra de faire travailler l'ouvrier pour satisfaire son égoïsme et sa cupidité. Bon, je dois aller plus vite, mais le principe ici, finalement, c'est qu'employeur et employé... Vous allez me dire, là, on est dans le millénium, c'est le cas idéal, mais ça ne devrait pas être « je travaille pour moi » ou « je te fais travailler pour moi ». Je travaille pour le bien d'autrui. Je travaille pour le bien de la compagnie. J'emploie mes employés parce que c'est le bien de la compagnie. Il y a toute une différence. Si l'altruisme... Alors, vous allez me dire, mais c'est trop idéal ce que vous dites. Mais pourquoi un employé n'aurait pas à cœur d'agir comme cela ? Pourquoi un employeur ne devrait-il pas agir comme cela ? En pensant au bien des autres, en ne travaillant pas pour lui-même seulement, mais en travaillant pour les autres. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Alors, bon, vous avez déjà travaillé pour un employeur chrétien ? En principe, les employeurs chrétiens sont très heureux d'avoir des employés chrétiens, et réciproquement. Mais ce n'est pas toujours vrai, hein, parce que les attitudes, même chez les chrétiens, ne sont pas toujours parfaites. Il y a parfois de l'injustice chez les employeurs qui emploient les chrétiens et réciproquement. Bon, je vous dis ça en passant. Mais en général, ça marche. Et aux États-Unis, je vous donne une illustration, il y a des entreprises qui donnent leur nom à des universités chrétiennes, parce qu'ils savent que les étudiants cherchent des jobs, hein, pour payer leurs études, et qui vont chercher ces gens-là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont réputés d'être travailleurs, d'être honnêtes, d'être à l'heure, et de ne pas voler l'employeur, etc. Mais c'est un beau témoignage, cela. C'est un beau témoignage. Alors, juste pour vraiment terminer, est-ce que je suis un patron qui fait des heureux, si je suis un patron, ou est-ce que je suis une salariée heureuse ? Bon, notez ça, d'accord ? Ça vous fait sourire, donc c'est vous, vous êtes heureuse dans votre travail, heureux. Et si vous êtes employeur, êtes-vous heureux d'être là où vous êtes ? Et puis, conclusion, c'est écrit petit, là, je ne sais pas ce qui se passe. Mais salarié, vous êtes salarié ce matin, dans la semaine plutôt. Vous êtes salarié, est-ce que vous êtes heureux dans ce que vous faites ? Mais surtout, avez-vous le bon comportement selon la volonté de Dieu face à vos employeurs ? Alors, relisez le texte, vous avez toute la panoplie de ce que Dieu vous demande. Et s'il y a des employeurs ici ce matin, ou si vous avez des subalternes, parce que peut-être vous n'êtes pas le grand boss, n'est-ce pas ? Mais vous avez peut-être des employés sous vos ordres. Est-ce que vous avez le bon comportement selon la volonté de Dieu ? Est-ce que, sans dire que vous êtes chrétien, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, les gens savent que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas ? Et ça se résume à une seule phrase, et on va reprendre ce que Paul disait au tout début. Et là, il finit le thème de la soumission réciproque en parlant des employés et des employeurs. Mais au tout début, il a dit quoi ? Soyez remplis du Saint-Esprit. La seule façon d'être dans la volonté de Dieu, dans sa vie professionnelle, et d'être capable d'être à la bonne place, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement un sentiment, c'est de dire « Seigneur, je m'engage à faire ce que tu demandes de faire en tant qu'employé, en tant qu'employeur. » Êtes-vous un bon employé ? Et si vous êtes un employeur, êtes-vous un bon employeur ? Prions. Seigneur Jésus, merci bon, de ces paroles qui viennent de toi, de ta parole. On est toujours émerveillé de voir tout ce que tu as à nous dire au travers des mots de ta parole et de ce langage que tu as employé pour nous. Merci Seigneur que dans ce contexte, Paul a su parler à ses esclaves de son temps. Et merci parce que tu as encore la puissance de nous parler dans nos cœurs pour avoir un bon comportement là où tu nous as placés. Merci Père de nous aider à être des bons employés et employeurs. Au nom de Christ. Amen.